C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, je suis avec Adjane Chélil et on va parler de social proof.
Exactement. Moi, ce matin, écoute, je sais pas, t'as passé un bon week-end déjà, Thibaut ?
Très bon, merci. Ouais.
Ouais. Moi, ça va. Petite courbaturée du foot, repu de tartiflette. Je pense qu'on a la preuve pour le coup que c'est vraiment un bon week-end.
Alors, qu'est-ce que c'est ? On va parler. Oui, on l'a dit. On va parler de social proof. Alors, je sais pas si on dit le social proof, la social proof. Moi, j'ai bien envie de dire la.
Moi, j'ai même envie de dire la preuve sociale.
Ah, voilà, on n'a qu'à le dire comme ça. La preuve sociale, les amis, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, on le sait, hein, la science, ça joue un rôle clé dans le marketing, en particulier la science de la psychologie. Et aujourd'hui, on va discuter ensemble de la preuve sociale. Qu'est-ce que c'est ? Ben, pour en parler, Jen, tu peux peut-être expliquer, toi qui as un parcours...
Alors, pas de psychologue hein, non plus, mais j'ai fait de la sociologie. Et c'est vrai que c'est un thème qu'on retrouve... en psychologie sociale, en anthropologie, en sociologie. C'est un principe qui est assez connu. Hein. C'est un principe selon lequel un individu, je vous lis vraiment la définition Wikipédia, quoi. Un individu ne sachant quoi faire ou quoi penser aura tendance à adopter le comportement ou le point de vue d'autres personnes. Alors, plus simplement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, avec un exemple, que c'est la fameuse théorie, si vous passez devant un restaurant plein et que de l'autre côté de la rue, vous voyez un restaurant vide, vous allez avoir envie d'aller dans le restaurant plein. Et ben ça, c'est la preuve sociale. C'est le fait que socialement, les autres vous influencent. Et on ne parle pas de vos proches ou non, on parle d'inconnus que vous voyez en foule, par exemple, dans un restaurant. Et ben ça vous influence, ça vous met dans la tête l'idée, alors que vous n'avez aucun critère de sélection juste, vous ne savez pas au préalable, vous ne connaissez ni le restaurant qui est à gauche, ni le restaurant qui est à droite. Mais ça vous donne l'idée, celui qui est plein, qu'il est meilleur parce qu'il y a du monde à l'intérieur.
Est-ce que dans la même idée, c'est un peu la file d'attente de 200 personnes devant une pizzeria parisienne ?
Bien sûr.
Est-ce que ça, typiquement, cette file d'attente constitue une preuve sociale que le restaurant est bon ? Alors après, ça, vos papilles le déterminent. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va vous inciter à aller tester, à aller comprendre pourquoi il y a autant de monde devant ce restaurant.
Le psychologue américain dont tu vas peut-être aussi vouloir parler, hein, c'est celui qui a théorisé la preuve sociale, Robert Cialdini, avec un magnifique accent,
c'est
merci beaucoup.
Roberto Cialdini.
Voilà. A tout simplement dit, pour résumer tout ça, la vérité, c'est les autres.
Oh là là, c'est bien voilà. Dit. En fait, effectivement, Robert Cialdini, il a écrit un bouquin en 84 qui s'appelle « Influence et manipulation ». C'est un bouquin, c'est un classique hein, qui peut être intéressant de feuilleter, y compris aujourd'hui en 2019, parce que effectivement, il a fait un paquet d'expériences différentes dans son bouquin autour de un certain nombre de notions de psychologie d'influence et notamment celle de la preuve sociale. Dans une de ses études, par exemple, il explique qu'un restaurant a augmenté les ventes de certains de ses plats de 20% simplement en les présentant sur la carte comme nos articles les plus populaires. Et parfois, il suffit juste d'un petit incentive, d'une petite preuve sociale comme ça pour déclencher un sursaut de vente.
En fait, tout simplement, dès que nous ne savons pas vraiment nous-mêmes, nous basons en fait sur ce que les autres nous disent. Et effectivement, ça peut être, là, dans le cas d'un restaurant, ça peut être soit le fait qu'il soit plein, donc l'impression qu'il plaît à tout le monde. Ça peut être aussi, comme tu disais, les plats les plus populaires sur la carte sont. Mais ça peut fonctionner avec notre spécialité. Hein. Ça veut un peu dire la même chose. Notre spécialité, c'est un peu le plat populaire du coin, quoi. Et du coup, la spécialité.
Tu veux dire sur un restaurant, la carte qui dirait notre spécialité. Du chef.
La spécialité du chef, ouais. Je sais rien.
Ça se trouve, c'est pas du tout sa spécialité, c'est surtout celui qui fait le plus de marge.
Voilà, et ça peut être ça. Et genre, par exemple, je me dis, tu vas en Haute-Savoie, il y a un restaurant, il te dit notre spécialité,
c'est la paella.
Là, la paella, tu y crois moyen quand même si tu t'as renseigné un peu. Mais il te dit c'est la tartiflette. Bah, toi, tu te dis, bah, c'est la tartiflette. C'est-à-dire que tous les gens qui vivent ici dans le coin mangent ça pratiquement tout le temps parce que c'est la spécialité du coin. Faut que je le goûte, faut que je mange parce que les autres le mangent en fait. C'est encore une fois la preuve sociale.
Alors, pour revenir à la logique de la file d'attente, par exemple, si on devait faire un parallèle dans un monde numérique, eh ben, on pourrait imaginer que cette file d'attente, ça soit par exemple le lancement de Spotify ou le lancement de Gmail. Je ne sais pas si tu te souviens quand ces services ont été lancés.
Non.
Eh bien, il y avait une liste d'attente aussi pour participer au service. Il fallait rentrer son mail et attendre qu'on soit accepté. Et puis, voire même, il fallait après un parrainage pour pouvoir accéder à ces services. Donc, typiquement, là, c'était aussi une manière de faire de la social proof, de la preuve sociale autour de son service.
Alors, pour peut-être faire un peu le lien entre cette histoire de preuve sociale au restaurant et nous, ce qui nous intéresse plus profondément, le social media, il y a quelque chose, je trouve, qui fait très, très bien le lien. C'est tout simplement le système de notes qui existe aujourd'hui sur Google, mais aussi sur Facebook, et qui nous influence complètement, en fait, à l'heure de choisir tout. C'est-à-dire que, faut être honnête, moi, quand je vais dans une ville, par exemple à l'étranger, on cherche un restaurant dans le quartier où on est, on regarde sur Google ou Facebook les notes qu'il y a sur le restaurant, un hôtel, on va regarder les notes qui sont laissées par les utilisateurs, que ce soit sur des sites comme Booking ou etc., ou que ce soit sur Airbnb ou que ce soit sur Google. Et pareil pour les films, pareil pour les séries, pareil pour les livres. Dès qu'on choisit quelque chose dans pour nous aujourd'hui, et ça a toujours... En fait, il faut se dire que c'est pas quelque chose de nouveau avec les médias sociaux, mais que c'est quelque chose qui a toujours existé. On a toujours pris conseil, par exemple, pour acheter des livres ou pour acheter un DVD ou quelque chose comme ça. On a toujours pris conseil auprès d'un vendeur ou auprès de personnes qui vous ont dit qu'ils ont vu le film ou lu le livre. Et c'est les autres, forcément, qui nous influencent. C'est ça, la preuve sociale. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Vous voyez des notes pour des restaurants, des notes pour des hôtels, des notes pour des films, et c'est comme ça que vous allez choisir.
Ouais, alors tu vois, Robert Cialdini, lui, il décrit un certain nombre de types différents de preuves sociales, et il en parle une, et je pense que c'est celle dont tu parles, c'est la preuve sociale de l'utilisateur. Lui, il y en a plusieurs, hein, j'en ai isolé 5 qu'on va peut-être passer ensemble: la preuve sociale de l'expert, la sagesse de la foule, la preuve sociale de l'utilisateur, la célébrité et la certification. Donc juste pour revenir à la preuve sociale de l'utilisateur, tu as raison, effectivement, il y a une étude réalisée par Géo Digital qui dit que 80% des gens ont déclaré qu'ils seraient plus enclins à acheter s'ils voyaient des critiques positives des utilisateurs sur la page Facebook de la société. 80% des gens, hein, c'est quand même énorme. Donc effectivement, la preuve sociale de l'utilisateur, il y a pas mal de manières de l'activer, et en social media, clairement, encourager le client à laisser une bonne note, hein, ça peut être déjà un bon début. Hein.
Je trouve que justement, c'est peut-être le plus important, celui-là, c'est en social media, ça, c'est le critère où il y a le plus de possibilités. Il y a plus de choses à faire quand on a une page sur Facebook, sur Instagram, etc. Parce que, donc, on l'a dit, il y a les notes déjà. Mais après, il y a aussi les UGC, les contenus créés par des utilisateurs autour de notre marque qui vont pouvoir être relayés, qui vont pouvoir être repartagés.
Alors, UGC, User Generated Content.
Oui, mais bon, on est en France, tu vois. Hein, donc, moi, je fais des efforts, preuve sociale, contenu créé par un utilisateur. Voilà. Du coup, ça permet de le repartager et de montrer aux autres utilisateurs que certains utilisateurs aiment ce que vous faites, aiment votre marque, etc. Et puis, je vois une troisième chose qui est assez importante et auquel nous, déjà, de base, on croit fort ici chez Supernatif, c'est le conversationnel. Parce que le conversationnel, ça va vous permettre d'avoir des témoignages, en fait, en dessous de vos posts, de plein d'utilisateurs qui, potentiellement, vont pouvoir laisser des commentaires assez cool, sympas sur ce que vous faites, quelqu'un qui arriverait de l'extérieur et qui tomberait sur votre page et sur un de vos posts pourrait voir tout de suite en commentaire en dessous des utilisateurs en train de dire du bien de ce que vous publiez, de votre marque ou de vous-même.
Tu vois, c'est un truc sur la partie témoignage. Un exemple, par exemple, ça serait d'aller sur le site de Kimono, K-Y-M-O-N-O, sur Instagram, sur leur compte. C'est une marque qui fait de la SAP pour les entreprises, hein, donc des produits business. Et ils ont une super manière, je trouve, de mettre en avant leur témoignage client. Voilà, je vous invite à jeter un petit coup d'œil là-dessus.
Bien, regardez.
Et typiquement, effectivement, ils font usage de la preuve sociale de l'utilisateur. Autre type de typologie de preuve sociale, la preuve sociale de l'expert. En gros, c'est quand un expert de votre secteur recommande vos produits ou vos services et que du coup, il est associé à votre marque. Là, il y a plusieurs manières d'activer ça en social media. On peut en citer quelques-uns. On peut peut-être imaginer, par exemple, avoir des collaborations avec des experts pour produire du contenu destiné à ces réseaux sociaux. Je ne sais pas, inviter un expert dans son live Facebook ou sur Instagram, concevoir avec une autre société experte, partenaire, je ne sais pas, une étude, une infographie, par exemple. Ça, c'est un super moyen de faire, de rapporter de la preuve sociale à son expertise en utilisant l'expertise d'un autre. On peut aussi imaginer carrément aller plus loin et inviter des experts à reprendre, faire un takeover sur ces réseaux sociaux. Ça, je trouve que ça, c'est un truc qu'on va beaucoup voir, à mon avis, en 2019, le social takeover. Et au lieu de le confier à un influenceur, bah, pourquoi pas le confier à un vrai expert de son réseau et lui dire bah, vas-y, anime-moi de la story, crée-moi du contenu pédagogique, t'as une semaine pour utiliser mes réseaux sociaux. Voilà, c'est une idée.
Oui, effectivement, l'expertise. Quelqu'un qui a le statut d'expert dans votre domaine va vous amener une crédibilité, un sérieux en parlant et en présentant ce que vous faites.
Voilà. Autre typologie de social proof, la sagesse de la foule. Alors le terme, bah, c'est un terme de psychologue là. Hein,
ouais, là c'est très intéressant. C'est ce qu'on a vu, ce qu'on expliquait tout à l'heure en début d'épisode avec le restaurant et la foule dans le restaurant. Et bah c'est un petit peu pareil. Si vous tombez sur la page de quelqu'un qui a 6000 abonnés, ça vous fait pas le même effet que quand vous tombez sur la page d'une marque qui en a 70. Et c'est naturellement humain, en fait, de penser à ce moment-là, s'il y a 6000 personnes qui aiment cette page, c'est qu'il doit bien y avoir une bonne raison, qu'il doit y avoir un truc cool dessus, que la marque doit être sérieuse, que ça vous donne de la crédibilité, de la visibilité. Alors que si vous avez que 70 followers, c'est un peu triste, mais quand on tombe sur votre page, on se dira, bah non, c'est pas sérieux, ça se trouve, c'est même pas la page de la marque. Voilà.
Ouais, tu vois, ça, on a fait un épisode il y a quelques temps de ça sur les Vanity Metrics. Je pense même qu'on l'a enregistré ensemble.
C'est ça.
Et là, en fait, effectivement, ce principe de social proof, il vient un petit peu amoindrir ce qu'on s'était dit, je crois, à l'époque sur ces Vanity Metrics, en disant, mais le compteur, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est la portée, c'est le reach. Ben oui, mais en même temps, la preuve sociale, ça pèse aussi. Et effectivement, avoir un gros compteur, ça joue son rôle.
Je crois qu'on avait déjà mis quand même des petites réserves à l'époque pour écouter l'épisode, mais il me semble. Mais effectivement, on ne peut pas balayer les Vanity Metrics comme ça juste en disant genre c'est pour l'ego et ça ne sert à rien du tout. Non, ça ne sert pas à rien du tout. C'est juste que pour piloter une page, quand on est une agence ou quand on bosse dans les réseaux sociaux, quand on doit piloter une page, piloter la qualité des publications, si elles fonctionnent, etc. C'est pas avec le compteur d'abonnés qu'on va pouvoir fonctionner, en fait. Qu'on va pouvoir comprendre ce qui se passe. C'est avec, comme tu disais, le reach, avec l'engagement, avec la portée. Et ça, c'est important de le rappeler parce que beaucoup de clients, souvent, qui sont pas forcément experts des réseaux sociaux, vont tout piloter avec ce nombre d'abonnés.
Ben oui,
qui est important, mais qui est pas...
Parce qu'ils ont dans leur fort intérieur vraiment ce réflexe de sagesse de foule, hein, donc oui. De preuve sociale, et c'est ce qu'ils recherchent. Il y a d'autres manières d'utiliser la preuve sociale. Alors là, on parle des compteurs de fans, de followers, etc. Mais il y a d'autres choses. Il y a la taille de ta clientèle, combien tu as de clients. Je me souviens qu'il y a quelques temps encore de ça, HubSpot, sur leur compte Instagram, ils disaient plus de 53 000 clients dans le monde, 90 pays, on est présent dans 90 pays. Et ça, typiquement, ce sont des manières de montrer l'effet de foule qu'il y a derrière votre produit. Donc, on peut imaginer effectivement la taille de la clientèle, le nombre de pays desservis, le nombre de produits vendus chaque jour, pourquoi pas, 100 chambres réservées chaque semaine, si on est un autre.
Oui, montrer la quantité de produits qu'on vend, la force de frappe de notre entreprise. Quoi.
Exactement. Puis, on peut aussi, tu vois, pour revenir sur ce que tu disais sur la preuve de l'utilisateur, c'est aussi à ce moment-là, parler du nombre de recommandations qu'on va avoir. Oui. Et ça, on le voit assez souvent, tu sais, à l'entrée des restaurants, on peut tout à fait l'imaginer rapatrier
plus
sur les social media.
Recommandations sur Facebook,
voilà,
5 étoiles
sur TripAdvisor, etc. Donc ça, c'est un bon moyen de profiter de l'effet de la sagesse de la foule. Autre exemple de preuve sociale, c'est la preuve sociale de la célébrité. On est assez proche de la preuve des logiques inhérentes à la preuve sociale de l'expert, mais là on va parler.
C'est pas exactement pareil.
Voilà, et là on va parler spécifiquement, je pense, en social media.
Je trouve que justement ça va plus avoir avec la sagesse du nombre. C'est-à-dire que l'influenceur qui. Parce que là on parle d'influenceur au final sur les réseaux sociaux quand on parle de ce que tu viens de dire.
De célébrité.
De célébrité, voilà. C'est un peu le même principe. Eh bien, effectivement, le fait qu'un influenceur parle de vous, ça montre. Auprès d'une certaine audience, déjà que vous êtes sérieux, parce que c'est un influenceur qui travaille avec vous et du coup qui a confiance en vous et en ce que vous faites. Sinon, il ne travaillerait peut-être pas avec vous. ça donne cette impression-là de l'extérieur, en tout cas. Et puis, il va vous amener cette visibilité auprès du plus grand nombre, puisque, en général, quand vous travaillez avec un influenceur, c'est qu'il a une communauté qui est quand même assez forte, assez importante. Donc, le tout mis bout à bout, c'est pas exactement comme l'expert qui, lui, va pas vous amener spécialement une visibilité au plus grand nombre, mais va plus amener, comme c'est indiqué dans son nom, une expertise. Il est respecté parce qu'il sait des choses sur ce sujet-là et il vient de dire que ça fonctionne. L'influenceur, lui, c'est pas forcément des choses sur ce sujet-là, mais le fait qu'il accepte, alors que c'est quelqu'un de connu, entre guillemets, de travailler avec vous, ça montre que vous êtes quelqu'un de sérieux et que ce que vous faites, c'est sérieux.
En fait, il y a aussi vraiment une logique de transfert, en fait, une transfert des attributs positifs que les gens ont pour une célébrité, pour un Instagrammeur, par exemple, ou un YouTuber. Et donc, les gens transfèrent ces attributs positifs sur le produit ou le service dont la personne parle. Et donc, forcément, là aussi, on est tout à fait dans une logique de preuve sociale, de façon un petit peu plus poussée, peut-être un petit peu plus quali. On peut imaginer aussi des choses autour de l'ambassadeur de marque, hein, des ambassadeurs de marque, et se dire que là aussi, on est dans la preuve sociale de la célébrité quand, telle marque a des ambassadeurs qui défendent ses produits toute l'année. On est aussi dans ces logiques.
Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Quand ce psychologue américain il a théorisé tout ça, lui, il n'y avait pas encore d'influenceur Instagram.
Il n'y avait pas encore de réseaux sociaux.
Donc, c'était exactement le même principe avec des stars mondiales, que ce soit des mannequins ou des actrices, par exemple, qui jouaient dans des pubs. Et c'était pareil, c'était des célébrités qui venaient enfoncer le clou, tout simplement,
qui venaient dire,
OK, ça, c'est une marque sérieuse puisque je joue dans la pub.
Eh bien, pour revenir à ce que Robert Cialdini nous dit, ultra truc, c'est la preuve sociale de la certification. Ça, c'est une des preuves sociales selon lui. Et alors, on peut imaginer qu'à son époque, en 84, je suis un restaurant et j'ai un macaron Michelin. Ça, clairement, c'est une preuve certification où je passe tel test de certification et je le réussis. Rapatrier évidemment aux réseaux sociaux, on est sur d'autres types de certifs.
Oui, alors je trouve que c'est un peu tricky là, la différence avec le reste, parce que la certification, par exemple, pour une étoile Michelin, est-ce que finalement c'est pas une expertise, l'étoile Michelin? Est-ce que c'est pas des experts de la restauration qui viennent, qui disent que ton restaurant est vraiment très bon, etc.?
Alors, élu produit de l'année, tu vois, ça c'est une belle preuve
sociale,
via la certification.
Oui, ça c'est plus une certification.
Ouais. Voilà. Et donc, rapatrier aux social media, évidemment, ça va être tout ce qui va être les petites la certification de vos comptes sociaux. Hein. Donc, avoir un compte certifié Facebook, le top c'est d'avoir un compte avec le petit badge bleu, mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi en avoir un beaucoup plus facilement avec une petite coche grise. Et là, dès lors que vous êtes un business, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Il n'y a pas de logique de chiffres, de spend en publicitaire. Donc, n'hésitez pas à creuser de ce côté-là. Instagram, évidemment, il y a aussi la logique de certification de son compte. Là, c'est plus complexe. Twitter, etc. Ça, c'est des choses, clairement, qui offrent une preuve sociale additionnelle.
Bien sûr, on est toujours plus en confiance quand on arrive sur une page avec la petite certification. Sur le côté, tout de suite, c'est pareil, en fait. Hein. On se dit, ça crédibilise la marque. On se dit que c'est sérieux. On se dit que c'est fait proprement derrière, qu'il y a pas que c'est pas une fausse page, que c'est pas un faux compte, ça met en confiance l'utilisateur. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, alors qui peut aussi entre peut-être que c'est une sorte de certification, une sorte d'influence, mais c'est pas non plus comme faire venir une célébrité, c'est d'être diffusé dans les médias, parler de notre marque dans les médias. Le fait que des médias relaient notre marque, je sais pas, par exemple, le BDM qui relaie le Super Daily, notre podcast, c'est une espèce de certification aussi.
Pour moi, aussi la preuve sociale de l'expert, là. C'est-à-dire que BDM, tu es sur un journal de niche.
Alors là, parce que c'est le BDM, mais je veux dire, ce serait France 3 qui parlerait du Super Daily.
Quand vous voulez, France 3,
je vais les taguer d'ailleurs. ce serait plus forcément un expert qui parlerait de nous, ce serait juste des médias qui remarqueraient ce qu'on fait, mais sans être expert de notre secteur. Et nous, ça nous amènerait une sorte de certification, parce que quand tu passes sur France 3, ça t'amène un certain sérieux.
Donc effectivement, là, rapporté aux réseaux sociaux, pourquoi pas utiliser vos articles, vos publications et faire une revue de presse, hein, tout simplement. Il y a un article qui est publié à votre sujet dans Elle Magazine. Publiez-le sur Instagram de façon un peu chic, en story, mettez-le en highlight pour qu'il reste là et qu'il apporte de la preuve sociale à votre produit, à votre service.
Avant de finir, je voulais conclure en disant une petite chose aussi, c'est qu'il faut faire attention, la preuve sociale, c'est, comme vous l'avez peut-être compris hein, au fur et à mesure quand même de notre développement, c'est quelque chose qui peut être positif comme négatif. C'est-à-dire qu'effectivement, la preuve sociale, c'est pas forcément positif. Si votre restaurant il est vide, bah, c'est une preuve sociale négative. Et en fait, dans la construction de la réflexion de Monsieur Tout-le-Monde, ce qui marche en positif, bah, à contrario, fonctionne aussi en négatif. Donc, il faut faire attention sur quoi on communique et comment on le fait.
Ouais, tout à fait. Ça, c'est très intéressant. Et effectivement, savoir optimiser, mais aussi avoir une vraie vigilance sur les signes, les petites lumières rouges qui clignotent, des avis négatifs sur Facebook, des tweets qui commencent à virer mauvais sur le compte de mon produit ou de ma marque. Évidemment, il faut être là, répondre, être proactif sur ces sujets-là.
Une perte de followers aussi qui peut indiquer aux gens, tiens, c'est bizarre,
tout à fait. Tout à fait. Voilà pour la preuve sociale. On espère que ce sujet vous a intéressé, les amis. N'hésitez pas à venir nous en dire deux mots sur nos réseaux sociaux.
Sachez déjà que nous avons de plus en plus d'écoutes, ce qui est une belle preuve sociale.
Oui, on est très contents de vous compter toujours aussi nombreux à l'écoute du Super Daily chaque matin.
Vous pouvez venir, oui. Donc, comme tu disais, nous laisser un petit commentaire, on répond à tout le monde. Ça nous fait super plaisir d'avoir des retours de vous tous sur les réseaux sociaux, @supernatif, sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Et puis, bien sûr, vous pouvez écouter ce podcast sur, peut-être comme vous êtes exactement en train de le faire maintenant, sur Apple Podcast, Spotify, Deezer ou Google Podcast. Et pareil, n'hésitez pas à laisser une petite note, un commentaire, on va tous vous
lire. On veut de
la
preuve sociale.
Voilà.
Merci à vous tous, on vous souhaite une très très belle journée et on vous dit rendez-vous dès demain.
Merci beaucoup, ciao.